Quand on parle de changement climatique, on nous parle surtout d'empreinte carbone. Et en même temps, on ne sait pas très bien comment réduire son impact carbone et comment on peut avoir un impact à zéro. Et aujourd'hui, justement, je reçois Louis-Noël Viviès, qui est le directeur général d'Energy Observer. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un navire à hydrogène qui a été mis à l'eau en 2017 et qui a pour objectif de réaliser un tour du monde en autonomie énergétique sans aucune émission de gaz à effet de serre ni de particules fines. Et justement, Louis-Noël est un spécialiste de l'énergie et donc on va parler avec lui du mode de fonctionnement parce que ce qui se passe sur un bateau, on peut complètement l'envisager pour un État, pour un pays, pour la population de manière générale. Et donc c'est une conversation assez intéressante, et en particulier qui va parler évidemment d'hydrogène, qui est une source d'énergie dont on parle assez peu finalement, puisqu'on parle beaucoup des renouvelables et pas trop de l'hydrogène, avec des débats d'ailleurs dont on va parler pendant le podcast. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Louis-Noël.
Bonjour.
Moi, j'ai une grande admiration pour les personnes qui sont dans la mer et qui peuvent faire face aux tempêtes. Mais en fait, ce qui est intéressant avec votre profil, c'est que vous avez ce mix entre la navigation et en même temps l'analyse du mix énergétique et en particulier, on va y revenir, de l'hydrogène. Comment vous en êtes arrivé à créer ce bateau et pourquoi en fait vous avez fait ça?
On a fait ça parce que on est des coureurs à la base. Enfin, au moins un tiers des équipes sont des gens qui font de la course, donc qui utilisent des technologies en fait assez pointues en termes de composites, en termes d'énergie embarquée. Et donc, après avoir passé des années en fait à aller chercher des sponsors pour gagner un quart de nœud, un dixième de nœud parfois, pour améliorer la performance. On s'est dit que si on investissait la même somme d'argent dans justement le développement de solutions qu'on utilise un petit peu sur les bateaux de course, comme les panneaux solaires, comme les éoliennes, comme les hydroliennes, mais si on investissait de manière un peu plus massive, plutôt que d'essayer de gagner un quart de nœud, qu'on essayait de gagner 10 kilowatts, ça aurait peut-être des applications beaucoup plus universelles. Donc le créateur du projet, en fait, Victorien Hérussard, il a fait beaucoup de transats, des routes du Rhum, des transats Jacques Vabre, etc. Et un jour, il est tombé en panne de générateur diesel au milieu du Pacifique. Au milieu de l'Atlantique, parce que c'était pendant une course transatlantique. Et il avait un groupe diesel, comme beaucoup de coureurs. Il avait bien sûr des panneaux solaires aussi, mais pas de très bonne qualité, pas très bien calibré, etc. Et donc, il s'est retrouvé tout d'un coup, alors qu'il était... en tête de la course, avec impossibilité de gagner, plus de pilote automatique, plus de radio, plus d'instruments de navigation, plus de météo, plus rien, et donc il a perdu la course. Tout ça parce que il avait un problème de je sais plus de segment sur son bloc diesel, et qu'en fait son installation solaire était pas du tout adéquate. Donc il s'est dit c'est quand même vraiment rageant. J'ai du soleil, du vent, de la vague. Je suis entouré d'énergie. Et je suis planté là comme un idiot parce que on est toujours dépendant du fossile. Donc c'est là qu'il s'est dit bon allez, j'arrête d'investir dans la course au large et je vais investir dans la course à l'énergie propre et à l'énergie naturelle et accessible et hyper fiable parce que partout disponible et gratuitement disponible en plus. Voilà.
Et donc, Energy Observer, ça porte bien son nom. Donc, vous observez aussi l'usage des énergies, comment on peut utiliser les différentes énergies entre elles, comment ça fonctionne. Quelque part, c'est aussi, enfin, moi j'ai l'association, mais peut-être que vous allez me dire l'inverse, qu'on était dans cette logique de performance. Vous avez parlé de la performance, en particulier en navigation, d'arriver le premier, etc. Et quand on parle d'énergie, il s'agit moins d'arriver le premier. Ou d'être dans la performance au sens ce que j'appellerais performance du 20e siècle, c'est-à-dire oui arriver le premier, aller le plus vite, etc. Mais plutôt de durer le plus longtemps. Non, c'est pas il y a ça derrière ou je me trompe?
Oui, mais ça c'est dû à notre culture. C'est qu'en fait quand vous voulez même gagner une course, vous pouvez pas le faire contre les éléments. Il faut le faire avec. Mmh. Les grandes routes maritimes historiques, c'est toujours des routes qui sont avec les alizés dans le dos, qui vous poussent. Vous n'allez pas contre la vague. Quand vous avez vraiment un front qui arrive avec beaucoup de mauvais temps, soit vous le fuyez, soit vous l'utilisez le mieux possible en essayant d'avoir un angle par rapport au vent et aux vagues qui va vous permettre de progresser. Donc, c'est quand même une école, et même toute la stratégie météo que vous déployez sur une transat ou sur une course, ce n'est jamais que étudier les éléments et à quelle vitesse ça va se déplacer et comment je vais pouvoir les optimiser. Donc en fait, on fait que ça dans la course, on fait que optimiser les éléments, le vent, l'eau, les courants, pour essayer d'en optimiser en fait l'apport. D'accord, c'est vraiment ça la base de la course au large aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est vraiment notre culture. Et cette notion d'aller avec les éléments plutôt que contre eux, parce que de toute façon, on peut pas tricher en mer. Il n'y a pas de triche possible. Vous pouvez pas les quelques rares qui ont essayé de tricher en falsifiant leur position dans les années 70. On en a fait des films dramatiques, mais il y a pas de solution dans la triche. Donc il faut faire avec. Il faut faire avec, et il faut même optimiser en fait ces ressources, optimiser ces éléments qui sont souvent très forts, très violents, mais les utiliser pour pouvoir arriver à bon port. Alors bien sûr, arriver le premier quand on fait de la course, et nous, aller le plus loin possible. Et nous, notre nouvel objectif, c'est pas d'être le plus rapide, c'est d'être le plus autonome possible, c'est-à-dire de prouver que, en fait, on peut arriver à l'autonomie éternelle, c'est-à-dire une espèce d'autonomie complète, un peu le Waterworld du 21e siècle, si vous voulez, rien qu'en utilisant à bon escient et en intelligence, en mixant du solaire, de l'éolien, de l'hydrolien, et parce que ça, c'est applicable même à terre. Alors, à terre, en plus, vous pouvez ajouter de la géothermie, de la méthanisation de vos déchets, etc. Mais nous, tout notre savoir-faire, toute notre science, c'est vraiment mixer ces énergies disponibles, parce qu'elles sont toujours complémentaires. Et on a mis un gros focus et on a beaucoup travaillé sur l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que c'est pour nous la brique qui manquait pour pouvoir stocker quand vous avez beaucoup de soleil pendant une période et qu'après vous en avez plus, vous avez plutôt plus de vent ou plus de courant. L'hydrogène vous permet de stocker ces énergies sur une très longue période. Hein, si vous enterrez une bouteille d'hydrogène pendant un mois ou deux et que vous la ressortez, vous aurez toujours la même quantité d'énergie dedans. Alors que si vous le stockez dans une batterie, ça perd de la puissance, c'est lourd. Et puis je parle pas des problèmes de recyclage, mais voilà. Donc c'est cette culture en fait qui est profondément en nous. Dans l'équipe, vous avez à peu près, comme je vous disais, il y a à peu près un tiers des gens qui viennent de la course, qu'ils soient architectes, coureurs, skippers, ingénieurs. Vous avez un tiers qui viennent de la marine marchande, où là, c'est pas tout à fait la même culture. C'est des gens qui aiment bien partir à l'heure, arriver à l'heure, et qui ont besoin d'une fiabilité absolue. Parce que, et puis d'une certaine vitesse quand même, d'une certaine performance. Parce que quand vous prenez le canal de Kiel, par exemple, ou quand vous voulez aller à Hambourg et que vous remontez la rivière, qui est très longue, vous êtes obligé de maintenir une vitesse minimum. C'est pour ça que le transport lourd à la voile, c'est très bien sur les grandes traversées, mais surtout ce qui est cabotage, qui représente quand même le gros de la navigation, c'est-à-dire d'aller de port en port en empruntant des estuaires, des rivières, etc. La voile pure n'est pas suffisante. Parce que vous êtes quand même, il y a tellement de trafic qu'il faut pouvoir emprunter des voies maritimes qui sont très très souvent étroites, difficiles, à une vitesse minimale. Donc voilà, on a besoin de performance pour pouvoir convaincre en fait les communautés maritimes que c'est pas parce qu'on est écolo qu'on est très lent, même si on est lent par rapport à eux, mais qu'on peut tenir des moyennes qui sont aujourd'hui bankable, c'est-à-dire qui sont raisonnables pour du transport de fret, de passagers, etc.
Et en fait, on va faire beaucoup, évidemment, je pense que les personnes qui nous écoutent auront compris qu'on va faire énormément d'analogies entre la vie de ce bateau et la société. C'est-à-dire qu'en fait, comment envisager nos modes de vie? Mais je pense que ça s'entend déjà dans la manière dont vous présentez les choses. C'est-à-dire que on peut complètement coller tout ce que vous racontez à nos manières, nos modes de vie aujourd'hui et vers là où on doit aller. J'avais une question, alors qui est pas forcément en lien avec ce que vous venez de dire, mais qui moi me passionne parce qu'en fait on vit en ce moment une période très difficile à cause évidemment de la crise sanitaire. Moi je considère un peu ça comme de voyager dans la tempête. Et je voudrais avoir vos conseils, entre guillemets, de navigateur, de comment on gère une tempête. Quand on est dans la tempête, quand on sait plus très bien où on va, quand on est un peu paumé, comment on fait? On est sur un bateau, comment ça se passe en fait?
Sur un bateau, la tempête c'est un événement que déjà on voit arriver. C'est aujourd'hui on se fait plus surprendre par une tempête. Donc le premier élément c'est que on anticipe. Il faut vraiment anticiper pour réduire la voilure sur un bateau quand le vent arrive de manière forte et violente. Le premier conseil c'est d'anticiper, c'est d'avoir réduit la voile avant que le vent fort vous empêche de le faire parce que c'est trop tard, parce qu'il y a trop de pression sur le gréement et que vous allez tout casser. Donc, il faut anticiper. Et peut-être dans la crise sanitaire qui nous préoccupe aujourd'hui, le premier constat, c'est ça. C'est est-ce qu'on a vraiment anticipé? On savait qu'il y avait ces coronavirus qui circulaient avec les chauves-souris, qui se transmettaient à l'homme. Il y a plusieurs laboratoires, que ce soit en Chine ou ailleurs, qui travaillent sur ces molécules et le danger était identifié depuis longtemps. Donc moi, le premier constat, c'est de dire, nous en mer, on anticipe parce que sinon, une fois que le front arrive sur vous, avec de la pluie horizontale, avec des claques de vent très fortes, tout devient un peu précipité, dangereux, et c'est souvent à ce moment-là qu'on a les enchaînements. Vous savez, vous avez une première casse qui en provoque une deuxième, qui en provoque une troisième, qui va provoquer une catastrophe. Donc ça, c'est le premier principe, pardon, c'est vraiment ça, c'est anticiper. Ensuite, le deuxième principe, c'est d'essayer de bien comprendre l'élément qui vous oppresse, qui vous contraint, et essayer d'aller un peu dans son, plutôt que de se battre en frontal, c'est essayer d'être intelligent avec lui, soit le fuir, s'il est vraiment, de toute façon, vous pouvez absolument rien en tirer, il faut fuir, soit l'utiliser, c'est-à-dire essayer de le prendre à son propre jeu et en tirer un bénéfice pour vous. Alors c'est sûr que dans l'histoire du coronavirus, c'est plus compliqué à dire, à part le bénéfice peut-être pour la surpopulation mondiale d'avoir plein de morts, je vois pas trop le bénéfice de l'humanité.
Ça peut être de ralentir et de prendre le temps et de, parce qu'en fait justement, enfin moi je fais aussi l'analogie avec la crise climatique et les changements qu'on doit faire qui sont systémiques en fait, et peut-être que ce virus, cette crise sanitaire nous donne l'opportunité à une plus grande échelle de prendre un temps de respiration sur nos modes de vie, et parce que le coronavirus, c'est juste la première expression, entre guillemets, très tangible de cette crise beaucoup plus large qu'est la crise écologique. Donc en fait, on peut le voir ça aussi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette crise sanitaire, c'est un premier signal très fort, très tangible de ce qui nous attend dans les années à venir. On peut aussi l'envisager comme ça.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas très rassurant. Ça veut dire qu'en fait, on a tellement touché en fait au sauvage, c'est-à-dire à des virus qui sont censés ne jamais nous toucher parce qu'ils sont sur des animaux qui sont dans des forêts primaires ou qui sont au fond des grottes. Là, les hypothèses les plus sérieuses sur le coronavirus, c'est que ce sont des chauves-souris qui étaient au fond d'une mine, une mine abandonnée, qui était mal entretenue. Du coup, elles en ont fait leur nid. Il y avait une très forte concentration, et il y avait des déjections, et puis apparemment, ce seraient des mineurs qui auraient commencé à vouloir nettoyer cette mine pour pouvoir soit la réexploiter, soit s'en servir comme un stockage. Mais en tout cas, on n'a pas à être mixé aussi près avec ce monde sauvage. On doit le respecter et chacun chez soi. Donc c'est vrai que la destruction de tous ces environnements primaires vont faire qu'il y aura de plus en plus, enfin à mon sens, on risque d'avoir encore d'autres pandémies à l'avenir. On voit une résurgence maintenant de l'Ebola en Afrique. On voit des résurgences d'autres. Il paraît qu'il y a plusieurs milliers en fait de types de coronavirus. D'accord. Maintenant qu'ils soient aussi contagieux que celui-là, non. Heureusement pour nous. Sinon, on serait peut-être déjà beaucoup moins nombreux sur la Terre. Mais non, il faut écouter. En fait, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme et de dire c'est dame nature qui nous commande. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre que il y a des virus qui vivent et qui prospèrent sans nuire en fait aux chauves-souris qui les portent. Je parle pas de l'histoire du pangolin qui aurait transmis les chauves-souris à l'homme, hein, parce que là on rentre dans des trucs, dans des hypothèses qu'on ne maîtrise pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les chauves-souris sont porteuses de beaucoup de coronavirus. Mais une chauve-souris ne vient jamais, à part dans les films de vampires, elle vient pas s'accrocher sur vous pour vous baver dessus. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a été pourquoi est-ce que on s'est retrouvé comme ça, confronté à des coronavirus, parce que nous on porte aussi des coronavirus tous les ans, on a des vagues de grippe, on s'y habitue, on se vaccine, on anticipe, on fait attention, on se lave les mains, on se protège. Je pense que là ce qui va nous rester, c'est que non, la nature n'est pas un monde de bisounours. Il y a aussi des échelles de prédateurs, que ce soit chez les virus ou chez les animaux. Il y a aussi une échelle de la violence qu'il faut qu'on reconnaisse et que parfois on n'est pas à notre place dans certains milieux où on est trop exposé. Il faut pas y aller. Voilà, c'est tout. Mmh. Donc, aller farfouiller des mines pleines de chauves-souris, on sait depuis très longtemps que c'est des choses qui sont dangereuses, que ces petits mammifères volants portent des organismes qui peuvent nous nuire. Et voilà, laissons-les chez elles, quoi. Voilà.
Et pour revenir sur notre image, enfin sur cette image entre la navigation et enfin en tout cas la tempête et la gestion des crises. Donc ce que vous dites, c'est soit on peut fuir, soit on peut faire avec les éléments. Dans la mer, il y a au moins deux éléments, c'est les vagues et le vent. Il y en a une qui vous accélère et l'autre qui vous ralentit. Hein, si je me trompe pas, c'est quasiment des forces contraires ou comment c'est, parce que moi, je suis pas navigateur, donc.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'intérêt d'être sur l'eau, c'est que vous êtes à l'interface de deux gaz, qui sont l'air et l'eau, en effet, mais dont la densité est très différente. Ce qui fait que tout est beaucoup plus compliqué. Notamment quand on dessine des bateaux de course, donc on a une partie du bateau qui est dans l'eau, la quille, les foils, etc. Et puis vous avez une partie qui est en l'air. Donc le gréement, les voiles, les cerfs-volants, éventuellement, ou les ailes. Et donc vous êtes toujours à l'interface, en fait, de deux gaz. Et c'est ça qui rend, en fait, la mer dangereuse aussi, c'est que vous pouvez avoir un vent qui circule à 100 km/h, l'eau en dessous, elle bouge quasiment pas. Donc vous avez cette différence de vitesse entre les deux gaz qui est telle que vous êtes roulé au milieu et vous pouvez être détruit. D'accord? Donc c'est cette différence qui rend la conception des bateaux, en fait, beaucoup plus complexe qu'un avion, qui lui ne se déplace que dans l'air, ou qu'une voiture, qui se déplace sur un sol dur en 2D. Nous, on se déplace en 3D, entre deux gaz avec lesquels il faut jouer, parce que vous avez des densités qui sont tellement différentes qu'il faut pouvoir profiter de la circulation plus rapide de l'air pour vous déplacer dans un liquide qui lui est beaucoup plus dense et a tendance à vous freiner. Voilà, donc c'est pour ça que toute la recherche techno qu'on fait en aéro, en hydro, pour les composites, pour les matériaux, est passionnante dans le monde maritime, parce que vous avez des contraintes qui sont beaucoup plus fortes que partout ailleurs.
Et on dit, quand on est dans une tempête, il faut nécessairement donc baisser les voiles, ça c'est une certitude, vous l'avez dit, mais aussi savoir anticiper, bon, ça vous l'avez dit, mais aussi savoir faire avec ce qui arrive, c'est-à-dire vivre quasiment dans le moment présent. Il y a aussi cette notion de... j'ai plus le mot en tête, ça m'a échappé.
Ouais, de résilience, ou non, je sais pas quand même. Mais
ouais,
non,
résilience, oui, c'est un peu de ça. Hein.
Oui, mais en fait, quand vous êtes pris dans un front, alors déjà, bien sûr, vous essayez de l'éviter. Une fois que vous êtes pris dedans parce que vous n'avez pas été assez vite ou parce que le front a été trop vite et qu'il vous a rattrapé, le front, c'est vraiment quand vous avez cette espèce de mur d'air froid qui arrive sur vous. En général, ça correspond à une grosse barrière nuageuse avec beaucoup de vent en dessous, que vous êtes pris par le front. À ce moment-là, de toute façon, vous pouvez pas vous échapper. C'est-à-dire que c'est pas un jeu vidéo où vous dites j'arrête, voilà, je vais aller fumer une clope et puis je reviens. Non, c'est là et puis il faut faire avec. Moi, j'ai des récits de skippers dont je me suis occupé, comme Olivier Kersauzon, etc., qui ont fait des tours du monde en solitaire. Ils ont eu tellement peur pendant des journées entières qu'ils se forçaient à s'allonger par terre pour respirer par le ventre, pour ne pas céder à une espèce de panique, donc obligé de faire de la méditation au milieu de tempêtes effroyables. Moi, j'avais l'exemple justement de l'équipage de Geronimo, le premier grand trimaran qui a fait le tour du monde en équipage. Ils étaient dans le Pacifique Sud, ils arrivaient sur l'Amérique du Sud, vous voyez, donc ils étaient avec des véritables boulets de canon de tempête qui leur arrivaient dessus par l'arrière avec une vitesse incroyable, des vagues qui se déplaçaient à 20 nœuds, je sais pas si vous voyez, de la houle, 6-7 mètres de haut qui avance à 40 km/h, ils n'arrivaient pas à virer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à empanner pour changer de direction, pour remonter vers le Cap Horn et pour passer en Atlantique. Ils avaient peur de la manœuvre, ils étaient à sec de toile, donc il n'y a plus de voile du tout, et rien que le mât poussait le bateau à 25 nœuds plein sud vers l'Antarctique, et ça a duré 3 jours. C'était un cauchemar complet, quoi. Et en fait, ils ont réussi, en fait, à virer après avoir pris beaucoup de temps pour comprendre la vitesse des vagues, comment elles cassaient, à quel moment exactement ils pouvaient faire pivoter la machine pour sans risque de se faire prendre par l'arrière et de se faire rouler. Donc c'est vraiment une observation en fait de la nature. Il faut vraiment observer, comprendre, et c'est avec ça qu'ensuite vous pouvez choisir le bon moment, la bonne stratégie pour utiliser cette force pour vous propulser vers là où vous voulez aller. Mais si vous passez en force, vous n'avez aucune chance, mais aucune chance. Les éléments sont beaucoup plus forts que vous.
Si la technologie aide, ouais. Mais pardon. Bah,
la technologie, elle aide beaucoup pour l'étude. C'est-à-dire que, par exemple, en météo marine, sur les analyses météo, sur le routage, hein, ce qu'on appelle le routage, vous voyez, sur le Vendée Globe, donc les navigateurs ont des systèmes qui leur font des prévisions de route très très fines. Et on a fait des progrès absolument dingues depuis des années. Donc on sait de manière assez précise maintenant, jusqu'à 6, 7, 8 jours à l'avance, exactement ce qu'il va y avoir sur la zone. Et l'ordinateur vous calcule automatiquement des routes qui sont à la fois les plus rapides, donc les moins risquées, parce qu'avec le moins de vagues, et donc pour aller vite, il faut que la mer soit favorable. Donc, la techno nous a beaucoup, beaucoup aidé pour comprendre. Mais c'est un peu pareil avec nous, avec les ENR et les softs qu'on écrit, ce qu'on appelle les Energy Management Systems, c'est-à-dire les programmes qu'on développe pour gérer un parc de panneaux solaires avec de l'hydrolien, avec de l'éolien, et pour pouvoir optimiser en fait tout ça en fonction des prévisions météo. Nous, quand on traverse un océan avec Energy Observer, on a une prévision, par exemple, de la nébulosité sur le parcours qui est très fine. Donc on sait combien les panneaux vont produire par heure, par jour. Et on sait quand est-ce qu'on va devoir taper dans nos réserves d'hydrogène parce qu'on n'aura plus assez de soleil et parce qu'il n'y aura pas de vent ou pas assez de vent. Typiquement, dans un passage de l'équateur, vous avez une zone qui s'appelle l'ITCZ, Intertropical Zone, là, qui est le poteau noir, en fait, et qui est une zone complètement calme où vous avez tout d'un coup des espèces de petites tempêtes tropicales hyper violentes et puis tout d'un coup, plus rien. Mais ça peut durer des jours et des jours. Donc, quand vous arrivez à anticiper ça, nous, par exemple, on n'a jamais été en limite ou en danger d'énergie, de manque d'énergie, parce qu'on a toujours pu anticiper l'ensoleillement sur 3, 4, 5 jours devant nous, le vent, bien sûr, et en fonction de ça, choisir des routes où on optimise en fait le moindre kilowatt naturel pour déplacer les 30 tonnes du bateau. Vous voyez, donc c'est vraiment cette étude fine que la technologie nous a permis d'améliorer. Et maintenant, l'intelligence artificielle qui arrive à nous faire des espèces de prévisions, de routes, de routages, en fonction de toutes ces sources d'énergie qu'on va retrouver sur notre route.
Et j'avais une question. Alors, vous parlez, je sais que l'Energy Observer fonctionne avec de l'hydrogène. Moi, j'ai entendu beaucoup de chercheurs, chercheuses, dire que l'hydrogène, c'était pas une option valide pour les voitures, en particulier parce que c'était un gaz très fin, qui s'échappait donc très facilement, qu'on avait du mal à le stocker, qu'il était très dangereux. Donc, j'aimerais savoir comment ça marche sur le bateau. Comment vous utilisez cette énergie?
En fait, sur le bateau, c'est un bateau électrique, donc avec un petit parc de batteries. Mais je dis petit parce qu'il fait, on stocke à peu près 100 kilowatts de 100 kilowattheures, donc d'énergie dans un parc de batteries lithium-ion, plutôt à l'arrière des flotteurs, parce qu'on sait que il y a un risque quand même d'incendie avec les batteries qui est fort. Sur une voiture, vous sortez en vitesse et puis vous courez. Sur un bateau, malheureusement, si ça brûle, surtout des batteries au lithium, a priori, il n'y a pas d'autre moyen que de les noyer complètement, donc de couler le bateau, quoi. Donc, on n'aime pas trop les batteries pour cette raison-là. Mais c'est indispensable parce que c'est ça qui nous permet de stocker l'énergie des panneaux solaires, par exemple. Et c'est quand ces batteries sont pleines qu'à ce moment-là, on commence à électrolyser, donc à dessaler de l'eau de mer. L'électrolyser, donc c'est-à-dire la passer dans une pile à combustible mais inversée, si vous voulez, vous explosez la molécule entre l'hydrogène et l'oxygène. Nous, on relâche l'oxygène, mais certains pourraient la réutiliser pour gonfler des bouteilles de plongée, par exemple. Et après, on compresse cet oxygène dans des bouteilles à 350 bars, qui est la norme aujourd'hui de milliers de bus. À Londres, en Chine, au Japon, en Californie, vous avez aujourd'hui par exemple à Shanghai, il y a plus de 300 ou 400 bus scolaires tous les matins qui tournent à l'hydrogène et il n'y a jamais eu d'incident. Donc c'est des normes assez sévères en effet, mais de toute façon tous les carburants sont à manier avec précaution. Mais maintenant quand vous demandez aux pompiers, par exemple aux pompiers français, les quelques pompiers qui ont été formés à des feux d'hydrogène dans leur centre d'entraînement de Aix-en-Provence là. Ils préfèrent mille fois un feu d'hydrogène, enfin une fuite d'hydrogène qui s'enflamme, que une citerne de GNL qui se renverse sur la route. Hein. C'est beaucoup moins dangereux. C'est une flamme qui ne rayonne pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la flamme, vous ne brûlez pas. Hein. Vous pouvez être à 1 mètre et vous n'êtes pas brûlé. Il y a un blast qui est en fait dû à la compression du gaz dans des bouteilles, parce que c'est compressé à très haute pression, 350 bars sur un camion ou un bus ou chez nous, mais jusqu'à 700 bars dans une voiture, hein, donc c'est vraiment des très très hautes pressions. Donc s'il y a un blast, c'est l'explosion de petits réservoirs, donc mais ça déclenche l'airbag, mais ça va jamais tuer personne, si vous voulez. Donc le l'hydrogène n'est pas plus dangereux que les autres gaz, c'est son mode de stockage sous forme gazeuse qui peut être dangereux si c'est mal manipulé. C'est pour ça qu'il y a tout le monde travaille aujourd'hui sur des technologies d'hydrogène liquide à pression ambiante, donc il y a plus ce danger de la haute pression. Mais par contre, il faut que ce soit à moins de 100 degrés, même moins de 250 degrés. Donc ça demande des isolations des réservoirs assez fortes et puis une légère perte en fait, en effet, parce que la molécule est très fine et elle a tendance à s'échapper. Et après, il y a plein de gens qui travaillent sur des technologies d'hydrogène qu'on appelle LOHC, donc liquide organic hydrogen carrier. Donc, ce sont des vecteurs comme de l'eau en fait, mais qui portent de la molécule d'hydrogène, qui ont le problème encore aujourd'hui d'avoir besoin de machines pour le rendre liquide et pour le re-rendre à l'état gazeux avant de le passer dans une pile à combustible, qui sont encore un peu gros et un peu chers. Mais ça avance vite. Hein. Il y a des Français qui travaillent là-dessus, des Allemands, Hydrogenos, il y a IC Lab en France qui travaille là-dessus. Donc non, nous, le danger en fait de l'hydrogène, je vais vous dire, il vient de... Dans notre imaginaire collectif, il vient de l'accident du ballon là de Hindenburg, mais où la plupart des victimes, en fait, et ça c'était déjà il y a très longtemps, la plupart des victimes n'ont pas été tuées par l'hydrogène du tout. Elles sont mortes parce qu'elles ont sauté. Elles ont eu peur et elles ont sauté. Ceux qui sont restés dans la nacelle, pour la plupart, ont été blessés par la chute de la nacelle, mais ne sont pas mortes. Donc c'est vraiment... on oublie ce gaz, mais ça a été... je pense que même dans les années 40, dans les années de la guerre, etc., il y avait des véhicules qui se promenaient avec des bouteilles d'hydrogène sur le toit. Hein. Donc nous, sur le bateau, on a... 8 réservoirs, donc on a 63 kilos d'hydrogène pur maximum, ce qui représente 1 mégawatt, donc 10 fois plus que notre parc de batterie, pour le même poids. C'est-à-dire qu'on a 1,7 tonne de batterie. Alors certes, c'est pas des lithium-ions à très très haut rendement comme il y a maintenant sur certaines voitures. Hein. On est à 75 watts par kilo, donc c'est on va dire de la génération 2, parce qu'on a besoin de sécurité d'abord. Mais pour le même poids, c'est-à-dire 1,8 tonne, on a plus d'un mégawatt sous forme d'hydrogène. Donc vous voyez, pour nous, c'est 10 fois plus léger. Donc, il n'y a même pas photo. Et en plus, nous, les ingénieurs, ils dorment à 1,50 m des réservoirs d'hydrogène, mais ils accepteraient jamais de dormir au-dessus d'un parc de batteries lithium. Hein. Jamais. C'est les risques en cas d'explosion, c'est très compliqué. Donc, on n'est pas anti-batterie. On dit juste qu'il faut avoir le parc de batterie le plus petit possible et que ça serve plus comme d'un buffer, comme d'une espèce de réservoir tampon. En fait, la batterie, c'est vachement bien pour le stockage à court terme. C'est-à-dire, vous ramassez l'énergie du panneau solaire, vous ramassez l'énergie de votre hydrolienne ou de n'importe quelle source d'énergie et vous la redistribuez. Mais nous, c'est vraiment une techno qu'on intègre dans un mix global. Mais les solutions tout batterie pour les voitures, par exemple, alors pour les petites voitures urbaines, ça nous paraît à peu près cohérent aujourd'hui. Par contre, pour le transport longue distance, c'est juste un non-sens, quoi. Pour nous, c'est... Et puis après, se posent les problèmes de recyclage des terres rares, du cobalt, du nickel, etc. Bon, ça, c'est un autre débat, mais dans une pile à combustible, tout est recyclable, hein, donc, ou quasiment, elles sont recyclables à 97%. Il n'y a pas beaucoup de batteries aujourd'hui qui le sont. Hein.
Complètement. Et est-ce que vous avez une place pour des énergies fossiles comme le pétrole
ou Non, absolument pas. D'abord, non. Au début, la première année, on avait un groupe électrogène de secours qui était dans un cocon, vraiment tout à l'arrière, derrière les batteries, dans une des coques. Et en cas de blackout total, parce que le système était quand même une première mondiale, hein, qu'on a fait. Il n'y a jamais eu de système complet avec un électrolyseur et une fuel cell sur un bateau. C'était vraiment assez osé de faire ça au début. Et les ingénieurs du CEA qui ont conçu le système original. Alors c'est vrai que depuis, on l'a beaucoup fait évoluer, hein, avec on a quasiment tout changé déjà au moins deux fois ou trois fois pour optimiser. Le système tel qu'il était au début, c'était une première mondiale. On n'avait aucune certitude sur la fiabilité, sur la durée de vie de cet électrolyseur qu'on avait complètement trafiqué pour le rendre résistant à la corrosion, résistant au choc, etc. On avait ce groupe diesel en backup que d'ailleurs notre assureur nous obligeait à embarquer, quoi. Donc, bon, voilà. Ça, c'était vraiment les tout débuts quand on a commencé le Tour de France en 2017. Mais depuis, on ne fait que cramer de l'hydrogène. Et de moins en moins en plus, parce qu'on optimise vraiment toutes les briques. Donc aujourd'hui, en fait, l'hydrogène sert vraiment quand on est en fin de batterie, vous voyez, au milieu de la nuit, qu'on n'a plus de vent, qu'on n'a plus de truc. Hop, en une demi-heure de fuel cell, donc de pile à combustible, on remonte 100% des batteries et ça nous permet d'attendre le retour du soleil ou du vent. C'est vraiment une fonction de bouche-trou, hyper fiable, hyper silencieux, mais qui nous permet de tenir des moyennes qui sont aujourd'hui de l'ordre de 6 nœuds et demi sur une tournée atlantique, mais avec des pointes à 12-13 nœuds. Donc ça devient vraiment intéressant.
Et alors, pour continuer sur l'analogie, ce bateau, ça me fait un peu penser à l'Arche de Noé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ce bateau, il fonctionne et il est autonome. Qu'est-ce que vous avez appris qu'on pourrait appliquer à nos modes de vie de manière générale sur Terre, enfin sur Terre, sur la Terre, j'entends, ouais, pas sur la mer du coup.
C'est bizarre parce que nous on pensait d'abord faire un démonstrateur, c'est-à-dire montrer que ça pouvait marcher, qu'on pouvait avoir une autonomie illimitée. Et en fait, très vite, on est arrivé sur des enjeux qui sont beaucoup plus larges, en effet, et notamment dans le monde de l'énergie, parce que on a toujours vécu quand même dans des systèmes énergétiques assez centralisés, avec des gros acteurs nationaux souvent qui maîtrisaient toute la production nucléaire ou thermique ou charbon et qui distribuent après par des lignes à haute tension sur l'ensemble des territoires. Une des raisons pour lesquelles l'hydrogène ne s'est pas développé plus vite, c'est aussi parce que justement il dérangeait quand même beaucoup ces statu quo parce que ce qu'on a fait sur ce bateau-là, c'est très facile, c'est même beaucoup plus facile en fait de l'extrapoler sur un village, sur une île, sur un quartier. C'est ce qu'on appelle les smart grids. Et d'ailleurs, curieusement, les Chinois sont très très en avance dans les systèmes de gestion de ces smart grids aujourd'hui. Vous pouvez avoir une zone commerciale, par exemple, dans laquelle vous avez des grands magasins, etc., qui ont besoin de beaucoup d'énergie dans la journée parce qu'ils sont ouverts, ils ont besoin de chambres froides, de vitrines réfrigérées, de lumière, etc.
Bien sûr.
Qui sont en face d'un quartier résidentiel où dans la journée les trois quarts des maisons sont plus ou moins vides et ont besoin de moins d'énergie. Et on peut très bien imaginer des systèmes où en fait la zone d'activité commerciale va alimenter le soir aux heures de pointe la zone pavillonnaire et à l'inverse dans la journée la zone pavillonnaire redonner son énergie en surplus à la zone d'activité en face. Et ainsi non seulement dans un premier temps lisser les pics, c'est-à-dire les pics de consommation quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, ça c'est le premier objectif, mais ça peut aussi, si vous avez un parc éolien ou de la géothermie un peu massive ou à proximité, vous pouvez atteindre en fait assez facilement une autonomie complète à partir du moment où vous mixez des énergies, où vous ne raisonnez pas comme un fanatique ou un ayatollah de l'éolien ou de la géothermie ou de la méthanisation. Il faut savoir mélanger en fait. Et c'est ça qui rend notre système super intéressant. Et c'est pour ça qu'on est, par exemple, accueilli dans toutes les zones isolées. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de conflits, beaucoup de dépendances, on le voit par exemple dans les îles en Indonésie où tout le monde se déplace en bateau avec des moteurs à essence, où vous avez des énormes groupes électrogènes sur toutes les îles. Mais en fait, ils n'ont pas de pétrole, donc ils vont l'acheter à Brunei où ils l'importent, de Jakarta. Alors vous avez des bateaux aux citernes. Enfin, c'est un non-sens en fait. Et avec le soleil qu'ils ont et même parfois le vent, la plupart de ces îles en fait aujourd'hui pourraient être complètement autonomes. Et on se rend compte aussi que la plupart des grands conflits récents, je parle du conflit syrien ou qui aurait été déclenché en fait par la volonté du monde sunnite de pas laisser les chiites, enfin les Iraniens vendre leur gaz directement en Méditerranée, et que donc quand Assad a dit ok, ben on fait ce gazoduc pour aller jusqu'à Tartous et pour pouvoir vendre le gaz iranien directement sans passer par la Turquie, c'est comme par hasard c'est là que le conflit a éclaté. Bon, j'ai pas à juger des parties prenantes et de qui a financé quelle guérilla, etc. Mais ce conflit, à l'origine, aujourd'hui, il est à peu près évident que c'est d'abord pour des raisons d'énergie, de pétrole.
Bien sûr.
Et c'est le cas pour beaucoup de conflits. C'est le conflit en Irak, un petit peu avant, sur l'invasion américaine. C'est le cas de beaucoup de conflits, d'enjeux. Et si chaque communauté, chaque village, chaque ville pouvait avoir, ne serait-ce que 50% de son énergie qui soit locale et qui ne dépende de personne, non seulement vous permettez un accès à l'énergie à tous, y compris aux plus défavorisés, donc vous limitez quand même tout ce qui est migration sud-nord, etc. Vous limitez les risques de conflit, vous faites baisser la valeur du pétrole et même du nucléaire jusqu'à des niveaux qui deviennent normaux et qui correspondent à des consommations qui deviennent un peu marginales, comme les avions ou... Oui, il va encore falloir 5, 6, 7 ans avant que des avions à hydrogène ne volent, sans doute. Oui, il y aura encore... Nous, on n'est pas des anti-moteurs thermiques. De toute façon, on est juste pour aller le plus vite possible vers une décarbonation. Voilà, le plus vite possible, sans arrêter l'activité économique, et pour rendre autonomes des territoires qui pourraient, à nos yeux et aux yeux de plein de spécialistes, l'être mais dès aujourd'hui. Parce que les technos sont là. On entend encore beaucoup en France, ouais, mais c'est pour dans 10 ans, etc. Mais non, là, on arrive avec le bateau en Californie dans 3 semaines. On prépare les différentes réunions avec les acteurs locaux, etc. Il y a des milliers de voitures à hydrogène en Californie. Vous avez des milliers de bus à hydrogène en Chine. Vous avez une ville entière qui va être construite par Toyota au pied du mont Fuji, qui sera entièrement alimenté à l'hydrogène. Toute l'Asie, et aujourd'hui, il faut être réaliste, le centre du monde économique, c'est le Pacifique, c'est malheureusement plus l'Europe, c'est vraiment Chine, Japon, Corée, Californie, voilà. Et toute cette partie-là du monde, elle a compris déjà depuis 5-6 ans que l'hydrogène était la solution, déjà pour justement baisser leur dépendance vis-à-vis du pétrole, qu'il soit américain ou saoudien ou du gaz russe. Ils ont vite compris que leur salut passait par ça. Et ils ont investi de façon massive, que ce soit les Japonais, les Coréens, les Chinois, mais même les Californiens. Et nous, on est encore là en France à se dire « Ah, mais c'est dangereux. » Oui, ça a pété en 1920 avec le ballon Hindenburg. Enfin, je me trompe sûrement dans les dates parce que cette histoire, pour moi...
Je pense que personne ne connaît l'histoire, c'est pas très grave. moins d'aller googler et vérifier.
Ouais, enfin bon, non, mais...
Ça change rien au constat.
Je me trompe sûrement, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le... Franchement, quand on se promène un petit peu là-bas... que ce soit en Chine ou que ce soit au Japon, et qu'on voit toutes les applications et le virage massif qu'ils prennent vers l'hydrogène. C'est à Fukushima qui font un énorme terminal hydrogène. Ils vont faire de l'hydrogène vert, solaire, en Australie, qu'ils vont ramener sous forme liquide par des trains de bateaux, qu'ils vont décharger à Fukushima. Le Japon a vraiment une feuille de route sur l'hydrogène qui est très claire. Donc là, le plan de relance qui fait une part en effet importante à l'hydrogène. Mais nous, on dit, mais enfin, mais comment se fait-il qu'on ait attendu tout ce temps-là? Alors, il y a une explication qui est simple, c'est qu'en fait, comme on a un des plus gros parcs nucléaires rapport au nombre d'habitants, et qu'on a ces centrales, et que démanteler ces centrales est sûrement très compliqué et très cher, et qu'on n'a peut-être même pas les moyens de démanteler ce qui devrait être démantelé, il y a une solution qui est, d'ailleurs, sur laquelle travaille EDF aujourd'hui, qui est loin d'être idiote, c'est de convertir en fait ces centrales en centres de production d'hydrogène qui serait bleu. Il serait pas vert parce qu'il n'est pas entièrement ENR, mais ces centrales tourneraient, on dirait, moins fort, moins vite, mais elles sont toujours au bord de l'eau. Donc elles ont de l'eau en quantité, elles ont de l'énergie en sur quantité, parce qu'on n'a pas toujours les acheteurs italiens ou allemands en face qui sont désireux d'acheter nos kilowatts. Donc, mais on a tellement d'énergie nucléaire en France que, par exemple, un particulier, aujourd'hui, vous payez votre facture d'électricité 19 centimes le kilowatt. Les Belges ou les Allemands le payent 35, 40, voire 42 centimes. Trois fois, quatre fois plus cher que nous.
Les gens ne se rendent pas compte.
Donc, du coup, Pourquoi est-ce que dès que vous passez la frontière belge, vous avez tout d'un coup des panneaux solaires partout? Bah, juste parce qu'ils payent leur énergie trois fois plus cher que nous. Donc, ils amortissent plus vite leurs panneaux solaires. Et surtout, ils sont beaucoup plus sensibles à ça parce que les factures d'énergie dans ces pays qui sont froids, pourtant, sont lourdes. Nous, on est un peu, on est un peu dopé, quoi. On est un peu sous kilowatts parce que on se rend pas compte, mais on a une énergie qui est quasiment gratuite, quoi. Donc, c'est pour ça que la France a un peu de mal avec toutes ces nouvelles énergies et qu'on a toujours ce côté un peu dernier de la classe parce que, alors qu'on a des laboratoires extraordinaires, qu'on a des technos, qu'on a des vrais acteurs, etc., mais on est un peu, ouais, c'est un peu du dumping quand même, notre nucléaire. Alors maintenant, je vais pas prendre position pour ou contre, c'est pas le débat. C'est sûr que c'est, à chaque fois qu'il y a un grand accident nucléaire, tout le monde dit, ouais, il faut en sortir. Et en même temps, dès qu'il y a un hiver avec des pics d'électricité, nos voisins, ils sont bien contents de nous acheter nos surplus d'énergie. Hein, donc,
non, mais surtout, c'est quand même beaucoup moins polluant que.
Bah oui, parce qu'il y a pas de CO2.
Pétrole, hein. Ouais. Non, ou de charbon, si on prend l'Allemagne. Ouais. J'allais rebondir sur Jean Covici, mais.
Mais Jean Covici, bon, alors, le problème de Jean Covici, c'est que. Il est quand même soutenu par EDF, mais nous on n'est pas anti-EDF, on n'est pas anti-nucléaire, on n'est même pas anti-Jean Covici, mais par contre les attaques systématiques sur toutes les ENR pour démontrer leur incohérence, elles sont franchement un peu ridicules quand on regarde le reste du monde. Par exemple, nous on s'est fait beaucoup attaquer sur l'efficacité. On dit ouais, mais le rendement de votre système hydrogène il est nul parce que vous avez qu'au final que 24% de l'énergie que vous avez consommée, que vous gardez. C'est-à-dire entre ce que vous consommez pour électrolyser, ce que vous consommez pour compresser, et après ce que la pile à combustible fournit comme vraie électricité, puisqu'une pile fait la moitié chauffage et la moitié électricité, finalement, il vous reste que le quart. Je dis, ouais, c'est vrai, mais regardez quel est le rendement réel du diesel ou de l'essence. Parce que tout le monde compare l'essence à la pompe, jusqu'à la sortie du moteur, hein, jusqu'à l'arbre à cam, jusqu'à l'arbre de transmission, jusqu'à la roue, on va dire, d'accord? De la pompe à la roue. Oui, peut-être que vous êtes à plus de 30% de rendement, ce qui est pas terrible d'ailleurs. Mais est-ce que personne n'inclut l'énergie qu'il a fallu dépenser pour forer, que ce soit en mer du Nord, ou que ce soit en Arabie Saoudite, pour extraire le pétrole brut, pour le transférer dans la première raffinerie, pour le transférer ensuite tout l'hydrogène qu'on aura mis dans ce pétrole pour justement commencer à le raffiner un peu, le mettre sur le bateau, qu'il fasse la moitié du tour du monde, qu'il arrive dans une raffinerie en Europe, à Anvers ou à Fos-sur-Mer, et ensuite les camions pour l'amener à la pompe. Si vous incluez ça, mais on est largement plus efficace que toutes les énergies fossiles. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, toutes ces polémiques, bah, oui, à la fin, ça nous fatigue un peu. Parce que, un, on voit les autres qui vont très vite. Je parle vraiment de l'Asie. Et du Pacifique, qui vont très vite sur les technos. Clairement, aujourd'hui, les Coréens, enfin, les Japonais d'abord et les Coréens ensuite, ont vraiment des technos qui ont 10 ans, 15 ans d'avance sur les nôtres, en matière de piles à combustible. Ils ont des piles aujourd'hui, chez certains fabricants japonais, qui sont garanties 80 000 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80 000 heures, un moteur diesel, tous les 500 000 heures, il faut vérifier les segments, les coussinets de bielle. Enfin, on est dans un autre monde. Où les matériels vont durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Certes, ils sont encore un petit peu plus chers aujourd'hui, mais leur durée de vie est tellement incomparable qu'en fait, le coût réel du kilowatt sur 10 ans est beaucoup plus compétitif dès aujourd'hui déjà, pardon, pour les solutions hydrogène. Donc, et tout le monde le sait, c'est évident. Hein, donc,
Et il y a une question que je me pose, c'est, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, on a l'impression, quand on vous écoute, qu'on va pouvoir continuer nos modes de vie classiques, c'est-à-dire sans décroissance, qu'on va pouvoir avoir le même confort qu'on avait aujourd'hui, mais en fait, la consommation d'énergie qu'on a aujourd'hui, ça va être de l'hydrogène. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça sur le bateau? Est-ce que vous avez une consommation identique à ce qu'on pourrait trouver, j'en sais rien, sur un grand yacht? Et est-ce que, du coup, c'est vraiment... voilà, de l'énergie à volo, j'ai envie de dire.
Non,
non, ça marche pas comme ça.
Ben non, ça marche pas comme ça parce que, alors, on n'a pas voulu faire de compromis sur le confort. C'est-à-dire qu'on a du chauffage, de la clim, une machine à laver, la vaisselle. Donc on a exactement, en effet, tous les équipements que vous avez sur un grand yacht aujourd'hui ou dans une maison, on va dire. Mais maintenant, on a des règles de gestion du système il y a un peu plus de 1000 capteurs sur le bateau, 300 alarmes, et tout est géré de façon entièrement automatique. Hein, c'est-à-dire la pile démarre automatiquement quand on arrive à moins de X% de tel pack de batterie, etc. Bon. Les hélices sont des hélices à pas variable automatique, qui dont le pas, c'est-à-dire l'angle de la pale d'hélice dans l'eau varie en fonction de la vitesse du filet d'eau. Enfin bref, donc c'est un bateau très sophistiqué. Mais quand on fait des grandes traversées et qu'on sait qu'on doit être en autonomie totale et absolue et en même temps aller vite, par exemple, ou assurer une vitesse moyenne, il y a une des lois de gestion du système, on va dire de notre EMS, Energy Management System, qui est par exemple qu'on ne peut pas dépasser une consommation instantanée de plus de 3 kW. Vous voyez ? Et là, s'il y a un équipier qui, au lieu de faire chauffer de l'eau et puis après de faire un thermos et de faire son café pour la journée, il est un peu paresseux ou il adore tellement les expressos qu'il va se faire un expresso avec du 220 volts à la machine à café, et ben vous avez le bateau qui ralentit parce que vous avez écrété la consommation absolue instantanée. Et vous avez le bateau qui, pendant 5-10 minutes, va perdre 3-4 nœuds juste parce qu'il y a un mec qui a voulu prendre un café. Et là, ça fait quand même réaliser, du coup, à tout le monde, y compris à l'équipage, le coût réel de chacune de nos actions tous les jours. Et ça, finalement, très rapidement, ça induit des comportements dans l'équipage qui sont beaucoup plus éco-responsables, non pas par angélisme, encore une fois, mais parce qu'ils savent le coût d'un expresso à la machine, d'accord, c'est à peu près 1000 watts. Hein. Vous avez une résistance qui va chauffer un demi-litre d'eau pour en fait ne faire qu'une tasse qui va être de 25 centilitres. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est juste débile. Alors que vous faites chauffer votre litre d'eau et après vous faites un café filtre très fort si vous voulez et vous le mettez dans un thermos et vous servez 10 personnes pendant 2 heures. Vous voyez, donc le coût en énergie d'une tasse à café faite à la machine et d'une tasse à café qui sort d'un thermos sur le bateau, plus personne n'ose, sauf au mouillage quand on est arrêté et qu'on a trop d'énergie, ce qui arrive souvent, où là ils se font des expressos, mais sinon ils les font pas en mer. Vous voyez, c'est des tout bêtes, mais c'est ça. Et ça peut se traduire, par exemple, dans une maison. Moi, il y a un truc, par exemple, qui nous choque, c'est pourquoi est-ce que les machines à laver la vaisselle et même les machines à laver le linge ne sont pas branchées sur l'eau chaude de la pompe à chaleur de la maison ou de la chaudière à gaz? Pourquoi est-ce qu'on prend de l'eau froide seulement, qu'on va la chauffer avec une résistance, qui est un système vraiment qui date quasiment du Néandertal, d'accord? Donc, il n'y a pas pire comme consommateur. Après, chauffer de l'eau pour aller laver du linge, cette eau étant de toute façon évacuée dans les égouts juste après, sans même récupérer d'ailleurs la chaleur de cette eau. Avec des systèmes hyper simples, presque mécaniques, hein, c'est-à-dire de récupération de la chaleur quand l'eau chaude, sale sort de la machine, ou d'aller prendre l'eau chaude dans le ballon solaire ou dans le système de chauffage de la maison, ou même sur le réseau d'eau chaude de la cuisine, qui est à 1 mètre, d'accord ? On économiserait des milliers de kilowatts sur une rue, sur un village. Mais non, parce qu'en fait, on a toujours considéré que l'énergie était quasiment comme l'eau. Voilà, que c'était infini.
Non, mais on a construit un système dans une logique infinie, alors qu'en fait, ça n'allait pas. Comment on pourrait aider les gens aussi? Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que les personnes sur le bateau, elles prennent conscience parce que elles peuvent voir l'impact de leur consommation. La problématique dans nos modes de vie aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée des impacts de nos consommations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un compteur de CO2 sur une voiture, il n'y a pas un compteur d'eau sur nos douches, on n'a aucune idée de. Et puis en plus, il y a d'abord le voir et puis après comprendre les conséquences que ça peut avoir. Donc en fait, on n'a pas cette notion-là finalement dans la vie ordinaire.
Ouais, mais il faut faire attention aux jeunes générations qui arrivent, qui sont beaucoup plus sensibles que nous. Hein.
On
là,
l'espère.
Là, nous, on était en Europe du Nord en 2019. On a fait vraiment tout le tour de la Baltique. On a vu tous les vendredis, que ce soit en Norvège, au Danemark et en Suède, bien sûr, mais même en Finlande. Quand vous voyez tous les enfants entre 14 et 18 ans qui sont dans la rue avec des pancartes dans le moindre village, dans la moindre île en Norvège, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience quand même de nos des générations qui arrivent et qui seront les votants dans pas longtemps. Et c'est, je pense qu'on assiste, et d'ailleurs c'est presque drôle, mais on a une espèce de panique aujourd'hui dans le monde politique en disant merde, l'écologie arrive beaucoup plus vite que prévu. Vite, soyons green, faisons des grandes annonces, parce que ils savent très bien que les prochains scrutins, c'est même pas une mode, c'est juste, on va avoir une génération entière qui va être, qui va aller chercher les responsables. Donc,
c'est souhaitable.
Ouais, ben oui, c'est souhaitable, mais c'est ce qui arrive. Et en France, pareil, on est un peu décalé là-dessus. On est un peu comme les Italiens, les Espagnols, un peu vieille école, vieille classe politique, machin, etc. On se rend pas compte que, ben, en fait, l'horloge tourne et que les nouveaux électeurs qui arrivent, dans les 3-4 ans qui viennent, ils veulent plus de ces comportements-là. Et eux, paradoxalement, ils ont aussi peur de Big Brother, donc ils voudront pas être fliqués par des compteurs. Vous avez vu les nouveaux compteurs électroniques là, les LinkedIn là d'EDF, c'était des polémiques incroyables. Alors que pourtant la techno pour nous paraît intelligente, c'est ce qui nous permettrait de monitorer heure par heure ce qu'une maison consomme. Et je suis sûr que si on développait des interfaces simples sur un iPad ou sur une tablette ou sur un téléphone où les gens voient en temps réel quelle est leur consommation quand ils allument leur projecteur vidéo ou quand ils se font un café, c'est pas des choses qui sont dures à développer. Nous, c'est ce qu'on développe sur le bateau tous les jours, hein, des systèmes de calcul de flux. C'est quand même très simple. Et moi je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on profite pas justement de cette nouvelle génération de compteurs intelligents qui permettent de bien monitorer ce qui se passe sur un quartier. Pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas pour développer des applications pour les gens qui occupent chacun de ces logements, qui leur permettent de voir en temps réel quelles sont les choses qui leur coûtent le plus cher, parce que c'est quand même
à la fin, c'est quand même parce qu'à la fin, ça, pour le coup là, les gens ils voient la différence sur leur portefeuille, effectivement.
Bah oui, bien sûr. Donc c'est bizarre parce que en fait les réticences pour cette intelligence de l'énergie, elle vient de notre peur d'être fliqué. C'est typiquement que quand vous voyez sur le Covid, comme en Taïwan. Comment la Corée ont géré la crise en croisant les fichiers de l'immigration avec les fichiers de la sécurité sociale. Dès qu'un mec était malade d'aller chez le médecin et de la fièvre, boum, le médecin savait tout de suite si son client revenait de Chine ou du Japon. Et donc, il pouvait tout de suite soupçonner un Covid, l'isoler, etc. Ils ont géré la crise d'une façon magistrale par rapport à nous. Et je pense, en grande partie, parce que leur gestion numérique et leur gestion intelligente avec des applis mobiles ont été beaucoup plus performantes que nous. Nous, on a toujours peur, en fait, d'être fliqués, d'être suivis. Tout ça parce que oui, en effet, on a eu des gouvernements qui aimaient bien les écoutes, qui écoutaient les stars, qui écoutaient leurs ennemis politiques, etc. Mais c'est un vrai cancer, ça, pour notre société. Il faut qu'on se fasse confiance et il faut qu'on fasse confiance dans notre capacité d'analyse. Et tout ce qui est intelligence artificielle, qui est aussi une des grandes révolutions qui arrive, on peut en profiter si on utilise cette intelligence artificielle et ce big data, ces données tellement nombreuses qu'elles nous permettent d'avoir une analyse très très fine de ce qu'on fait, de notre coût énergétique, de notre coût de santé, de notre coût de vie, etc. Ça devrait être utilisé au bénéfice de chacun, et notamment des plus modestes, pour optimiser leur niveau de vie et puis leurs ressources. Et on fait rien ici parce que on a toujours peur qu'il y ait les fantômes du RPR qui viennent espionner, ou de Mitterrand qui viennent espionner Jean Dernallier et ses nombreuses maîtresses. Enfin voilà, c'est vrai que des fois culturellement on est un peu découragé, quoi. On se dit mais c'est quand même bizarre ce pays. C'est vachement beau, mais ils sont quand même bizarres.
Un peu étrange. Et alors comme vous devez partir, je vais devoir finir cette interview. Donc, je voudrais savoir, puisque ce podcast s'appelle Vlan, à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. C'est dommage que j'aurais bien voulu continuer cette conversation, mais...
Ouais, mais on pourra la continuer hors podcast.
Hors enregistrement, exactement.
Ouais. Moi, je voudrais claquer la porte, justement, à cette culture du silo en France. Que quand vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas un marin. Que quand vous êtes un humoriste, vous êtes pas sérieux. Que quand vous êtes... Un spécialiste de l'hydrogène, vous y connaissez rien en batterie. Que quand c'est cette culture de cloisonnement vertical, et voilà, moi je voudrais claquer la porte à ça définitivement, et qu'on s'ouvre un peu justement sur la mixité à la fois des compétences, des sources d'énergie propres, des sources d'énergie dans leur globalité d'ailleurs. Et voilà, moi c'est vraiment ça dont on souffre tous les jours, Et c'est ça que vraiment j'aimerais bien claquer la porte sur cette culture du silo qui nous ralentit, qui nous rend idiots en fait. Voilà, c'est tout.
Non, non, mais j'entends. Très bien, parfait. Merci beaucoup Louis-Noël.
Je vous en prie.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !